When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Il est tout juste 20h, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Ça se dispute dans un instant en direct sur CNews avec mes invités. Alexandre Devecchio, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro et puis j'accueille également Philippe Guibert, vous êtes enseignant et consultant. Merci à bonsoir. Vous deux d'être ici. Place donc à votre débat dans quelques instants, juste après l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Devez, bonsoir.
Bonsoir Johan. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. À la une, le gouvernement prêt à une remise de 30 centimes par litre de carburant. Bruno Le Maire s'est dit favorable à cette remise. Avec la ristourne de 20 centimes à la pompe annoncée vendredi par Total Énergie, le ministre de l'économie annonce un carburant à 1,50€ dans certaines stations-service, un seuil défendu par le parti Les Républicains. Alors, la mesure est-elle suffisante? On vous a posé la question.
À partir de septembre, tant mieux. Et pourvu que ça dure, non pas deux mois, et après, ça diminue jusqu'à la fin de l'année, mais que ça reste toujours comme ça, quoi. Vu ce que je dépense, moi, personnellement, dans mon cas, ce n'est pas assez.
Je pense que c'est très bien, que ça va assez loin et que ce gouvernement fait déjà énormément pour nous. Ça impacte le budget de tout le monde. Mais il faudrait peut-être que les gens arrêtent d'utiliser les voitures aussi. Ils ne l'utilisent que dans des cas extrêmes.
J'aurais préféré que ça soit d'actualité directement, en toute transparence. Pourquoi avoir attendu le mois de septembre? L'idéal. Bah, les départs en vacances sont actuels, hein, on ne va pas attendre septembre pour partir en congé, donc il aurait fallu que ça soit tout de suite, que la baisse soit directement mise en place.
Les magasins climatisés ne pourront désormais plus laisser leurs portes d'entrée constamment ouvertes, annonce faite aujourd'hui par le gouvernement. Il prévoit de généraliser l'interdiction à tout le pays avec jusqu'à 750€ d'amende. Alors qu'en pensent les commerçants? La mesure est-elle applicable? Reportage de Mickaël Dos Santos.
Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Ce dimanche, le gouvernement a annoncé de futurs décrets pour éviter les pertes énergétiques. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
Si on peut préserver l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
Nous vendons des produits frais, donc nous mettons la clim. Si on ne ferme pas la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits.
Il y a un peu ce côté amende, infantilisation qui revient assez souvent depuis la période Covid où on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
Pour éviter cette surconsommation, estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750€. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
Ma police municipale, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès lundi, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 150€.
En Ukraine, la région de Kherson, libérée des Russes d'ici septembre, annonce faite par un responsable ukrainien. L'armée ukrainienne a commencé ces dernières semaines à regagner du terrain dans cette région du sud du pays, aidée par les livraisons d'armes occidentales. Après deux années organisées en ligne, le Comic-Con fait son grand retour. Le festival de bande dessinée se déroule à San Diego, en Californie. Et la rivalité est intense entre les studios Marvel et DC Comics. Les explications de notre correspondant sur place, Ramzi Malouki.
On ne peut évoquer le salon Comic-Con sans mentionner la rivalité mythique entre les deux géants de la bande dessinée, d'un côté DC Comics, de l'autre Marvel. Une rivalité qui s'est amplifiée avec les nombreuses adaptations de super-héros au cinéma ou en série télé annoncées justement pendant le salon Comic-Con. Et comme à chaque édition de ce salon, eh bien, à chacun sa stratégie. DC Comics en mode cosplay avec l'acteur Dwayne Johnson qui a fait une apparition en costume dans son personnage de Black Adam. Un film très attendu qui sortira en salle le 19 octobre prochain. Marvel, de son côté, a dévoilé les prochaines séries d'animation, certaines avec des personnages qu'on connaît déjà très bien. Et en ce qui concerne les films, on retiendra la date de sortie officielle d'un quatrième volet de Captain America, ce sera en mai 2024, et celle de la nouvelle adaptation de la bande dessinée Blade, le 3 novembre 2023. Un film avec, dans le rôle du chasseur de vampires, l'acteur Mahershala Ali. Alors, 9h du matin, c'est l'heure à laquelle Comic-Con ouvre ses portes. Les journées peuvent être très longues, elles peuvent parfois se terminer vers 23h. Mais pour les 100 000 et quelques fans qui viennent ici, pas question de rater même une seule minute de ce salon dont les portes se ferment. Mais déjà, beaucoup commencent à évoquer un autre rendez-vous. Ça, c'est en septembre. C'est un autre salon qui s'appelle D23 et qui réunit cette fois uniquement les fans de Disney. Ça se passe à 1h de San Diego, plus au nord, à Anaheim, juste à côté de Disneyland.
En Formule 1, Max Verstappen remporte le Grand Prix de France, 7e victoire de la saison pour le pilote Red Bull. Il s'impose devant Lewis Hamilton et George Russell. Le Néerlandais compte désormais 63 points d'avance sur Charles Leclerc au classement des pilotes. Le Monégasque a perdu le contrôle de sa monoplace dans le 18e tour de la course. C'est la fin de ce journal. La suite de Ça se dispute, c'est avec vous, Johan.
Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Place au débat, donc à présent comme promis, Ça se dispute en direct sur CNews avec Alexandre Devecchio et Philippe Guibert. Et c'est un constat sévère et sans appel, la justice fonctionne mal et le bilan d'Emmanuel Macron en la matière est mauvais. Voilà ce qui ressort du sondage IFOP publié aujourd'hui par le journal du dimanche. Les détails de cette enquête d'opinion avec Marie Conan.
Le constat est accablant. La justice fonctionnerait mal selon une grande majorité des Français, 73% d'entre eux précisément. C'est ce que nous révèle ce sondage IFOP. Un sentiment qui aurait tendance à s'accentuer avec les années. Car il y a 60 ans, 6 Français sur 10 seulement jugeaient la justice incompétente. C'est 13 points de moins qu'aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron avait pourtant proposé un programme ambitieux de réforme de la justice. Insuffisant selon une grande partie de la population. À peine 27% saluent son action pour la justice aujourd'hui. Au début de son premier quinquennat, en 2018, ce chiffre était supérieur de 10 points. Et le problème ne semble pas uniquement politique, car quand on interroge les Français sur les juges, 65% des sondés ne les estiment pas assez sévères, augmentation là aussi de 14 points en 10 ans. Pour une majorité de Français, les magistrats font preuve de laxisme. Ce sondage intervient alors qu'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a entamé lundi une série de consultations avec les citoyens et les acteurs du monde judiciaire.
Alors Alexandre Devecchio, 73% des Français interrogés pensent que la justice fonctionne mal. J'allais vous demander de manière un peu ironique, mais je vais le faire quand même. Qui sont les 27% des Français qui pensent que la justice fonctionne bien?
je ne sais pas. Ceux qui n'ont jamais eu affaire à elle, peut-être. Je n'en sais rien. Ou qui sont peut-être, je pense que dans des conditions de sécurité, je crois que si les Français pensent que la justice fonctionne mal, c'est qu'ils constatent chaque jour que l'insécurité ne cesse de progresser, qu'ils voient des voyous qui dealent en bas de chez eux, qui agressent et qui ne sont pas forcément punis. Je crois que c'est tout simplement le choc du réel. Alors il y a peut-être des Français qui en sont encore préservés, dans certains centres-villes, encore que de moins en moins. Donc c'est peut-être là que sont à chercher ces 27%. Mais je crois que ce chiffre est un indicateur intéressant. Et effectivement, après je vais laisser parler Philippe, mais il y a sans doute une part de responsabilité des politiques et sans doute une part de responsabilité de l'institution elle-même.
Philippe Guibert, la justice est-elle une institution en état de délabrement? Je reprends cette expression qui figure dans le rapport qui a été remis il y a quelques mois au président de la République à l'issue des états généraux de la justice, précisément.
Délabrement, le terme est très fort, mais c'est Jean-Marc Sauvé, qui n'est pas un polémiste, qui est un monsieur très sérieux, conseiller d'État, qui a donné ce titre à son rapport. Et donc lui n'est pas dans la polémique et dans la critique des institutions pour se faire plaisir. Elle est dans un sale état, en tout cas, puisque quand on observe l'étude dont vous parliez, le sondage dont vous parliez, c'est le pire résultat en 60 ans. Et en plus, on voit sur la courbe que vous avez montré que les choses se dégradent. Donc c'est quand même un signal plus que fort. Enfin, ça signifie vraiment, en plus accessoirement, sur la sévérité de la justice, parce que je pense que c'est une question très sensible pour l'opinion publique, on constate qu'il y a une vraie majorité qui trouve que la justice n'est pas assez sévère. Et donc j'ai été regarder l'article dont le JDD le mentionnait, même à gauche, le sentiment est majoritaire d'une justice qui n'est pas assez sévère. Ce qui est un résultat, quand on écoute les représentants politiques de l'actuelle gauche, telle qu'elle est, n'était pas forcément courue d'avance. Donc on a un constat qui est quand même assez largement consensuel et qui appelle de la part du pouvoir en place, de l'exécutif, mais aussi du Parlement, puisque désormais le Parlement a aussi son rôle à jouer, qui appelle quand même une action très forte. Parce que la justice a été une variable d'ajustement budgétaire lors des 10 dernières années, tout gouvernement confondu, de la fin du mandat de Nicolas Sarkozy à celui de François Hollande, jusqu'au début, à l'essentiel, de celui d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. Ça a été une variable d'ajustement. Et il n'y a qu'en toute fin de quinquennat que le budget a remonté. En sachant que le budget de la justice, ce n'est pas qu'une question budgétaire. Enfin, c'est aussi une question budgétaire, notamment de recrutement de magistrats. Il ne faut pas oublier que le budget de la justice, il comprend aussi les places de prison et prisons.
Précisons quand même que c'est un budget qui est en augmentation. Emmanuel Macron a souhaité que ce budget soit augmenté.
La dernière année, il y a eu une vraie augmentation de 10%, sauf erreur de ma part. C'était la première année depuis très 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 longtemps et les budgets étaient plutôt en diminution avec une diminution des postes et des crédits. Donc c'est un début de rattrapage, c'est pas un rattrapage total, il faudra quelques années pour rattraper le retard qui a été accumulé dans le fonctionnement de la justice.
Alexandre Devecchio, 65% des Français estiment que les juges sont laxistes. Est-ce que c'est un constat qui, selon vous, est injustifié ou au contraire, vous trouvez que ça correspond plutôt à une réalité ?
Je pense que la réalité est complexe. Les peines qui sont prononcées sont parfois sévères, mais elles ne sont pas toujours appliquées et applicables, tout simplement parce qu'on n'a pas de place de prison. Donc ça, c'est la faute des politiques qui considéraient que construire des prisons, ça ne rapportait pas à court terme, puisque ça met des années. Et on est dans cette situation absurde où le législateur a tendance à durcir les peines, ce que les juges suivent, parfois pas. Mais ensuite, on est obligé de faire des aménagements de peines. Et du coup, il y a une culture de l'impunité qui s'installe, puisque plus rien n'a de sens là-dedans. Donc il y a très clairement une responsabilité politique. Il faut construire des centres éducatifs fermés, il faut construire des prisons, il faut arrêter de penser que la prison doit avoir une fonction de rédemption. C'est bien si elle l'a, mais ça doit d'abord permettre de mettre ceux qui menacent la société à l'abri de la société. Et ça peut être très efficace, même avec des courtes peines pour des premiers délits. On l'a vu, par exemple, aux Pays-Bas, où ils ont construit beaucoup de prisons pour de courtes peines. Et aujourd'hui, les prisons sont vides puisque ça a eu un effet dissuasif. Ça, c'est une chose, c'est ce qui revient à la responsabilité du politique. Après, je pense que l'image de la justice est dégradée et elle a sa part de responsabilité là-dedans. Il y a eu l'affaire du mur des cours. Alors certes, ce n'est pas tous les juges, c'est le syndicat de la magistrature. Ça représente un petit pourcentage des juges, mais c'est quand même une affaire qui, je crois, a marqué l'opinion. Il y a aussi eu sans doute de nombreux cas de grands criminels, violeurs, libérés trop tôt par des juges qui ont récidivé. Donc il y a cette question de la récidive qui, je pense, a frappé l'opinion publique. Certaines affaires, comme l'affaire Sarah Halimi, par exemple, où les décisions de justice ont pu être
des affaires emblématiques, symboliques, qui viennent jeter quelque part une sorte de discrédit sur la justice.
Voilà, quand on regarde un peu l'idéologie, quand on se penche sur l'idéologie de l'École nationale de la magistrature, il y a quand même l'idée, finalement, qu'il faut assumer une forme de justice impartiale, si vous voulez, où les gens qui seraient socialement défavorisés, qui auraient un mauvais parcours, eh bien, il faudrait les punir moins sévèrement que ceux qui seraient favorisés. Ça, c'est une vision à géométrie variable qui correspond plus, je crois, à la réalité. Ça part peut-être d'un bon principe, mais la justice devrait être impartiale et moins idéologique.
Alors, des juges laxistes, c'est ce que pensent 65% des Français, on vient de l'évoquer. Pas du tout, répond Éric Dupond-Moretti. Au contraire, les juges seraient, selon lui, de plus en plus sévères. C'est ce qu'il a dit devant la représentation nationale dans l'hémicycle. C'était mardi dernier. Écoutez.
Vous mentez en permanence sur la justice laxiste. Les juges de 2021 sont 1,5 fois plus sévères que les juges de 2000. Et vous mentez encore à nos compatriotes lorsque vous dites que les peines ne sont pas exécutées. Voilà la réalité. Voilà vos mensonges, monsieur le député Odoul.
Alors là, j'ai presque envie de vous dire qu'y croire. Les chiffres du ministre...
C'est tout le problème des statistiques officielles.
Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais en l'occurrence, là, c'est un chiffre qui semble plutôt s'appuyer sur des données réelles. Alors, est-ce qu'il existe un décalage entre le ressenti de la population et la réalité ?
C'est pas beaucoup. Pardon, je vais vous laisser parler après, Philippe, mais 1,5 fois plus sévère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont prononcé des peines... 1,5 fois plus sévère qu'avant, ça veut peut-être dire que les criminels sont plus durs. Et ensuite, je vous disais, il faut encore que ces peines soient appliquées. Donc je pense que Éric Dupond-Moretti a tort de balayer la question comme ça. Il devrait assumer. Et moi, je pense vraiment que Emmanuel Macron a commis une erreur politique en ne remaniant pas aussi bien le ministre de l'Intérieur que le ministre de la Justice. Je pense que son point faible, c'est le régalien. Et qu'en plus, là, il avait une occasion. L'affaire du Stade de France faisait que Gérald Darmanin est, je crois, décrédibilisé aujourd'hui pendant 5 ans. Et par ailleurs, le choix de Dupond-Moretti apparaissait incohérent quand on veut donner une image de fermeté. Il a quand même commencé en expliquant, le ministre de la Justice, qu'il n'était pas pour l'enfermement, qu'il fallait qu'il y ait moins de peine de prison. Donc ça, c'est un signal fort qui a été envoyé. Et puis, il s'est construit une image en tant qu'avocat. Donc je crois que c'est le signal envoyé n'est pas bon. Donc il y aurait dû avoir un remaniement pour repartir sur de nouvelles bases sur le plan régalien. Alors, c'est pas le cas. Et on a un ministre de la Justice qui, en plus, ne change pas de cap, qui est ferme sur son cas et qui continue à être dans une forme de déni.
Alors, on a un Français sur quatre qui est satisfait du bilan d'Emmanuel Macron et du gouvernement, donc en matière de justice. Un Français sur trois qui est satisfait du bilan en matière de sécurité. Et Alexandre Devecchio vient de le dire, on a un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui sont confortés. Donc, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron est satisfait de son bilan en matière de justice et de sécurité. Quand on conforte des ministres, généralement, c'est qu'on en est plutôt content.
Je crois qu'il y a plusieurs choses. Sur le plan strictement régalien, Emmanuel Macron a pensé que Gérald Darmanin, d'une certaine manière, le couvrait à droite. Le problème, c'est qu'il y a eu le Stade de France et que Gérald Darmanin, comme vient de dire Alexandre, a perdu beaucoup de crédibilité dans cette affaire, parce que rappelons que Gérald Darmanin a passé 4 ou 5 jours...
On parle de la gestion de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier.
On parle bien de ça et qu'on a eu confirmation que pendant 4 ou 5 jours, il a menti en répétant des éléments de langage qui lui avaient été donnés par la préfecture de police et qui ne correspondaient pas à la réalité. C'était l'histoire des fameux 40 000 faux billets.
Donc c'est une erreur, selon vous, de l'avoir maintenu en poste?
Je pense qu'à d'autres périodes de la Ve République, un ministre de l'Intérieur qui aurait tenu un tel discours dans une affaire qui a quand même fait beaucoup de bruit, qui a fait perdre beaucoup de députés à Emmanuel Macron aux législatives, ne serait pas resté en place. Mais quant à Éric Dupond-Moretti...
Pardon, mais je reviens à ma question parce que je pense qu'elle est importante. Est-ce que ça signifie qu'en maintenant ces deux ministres à leur poste, Emmanuel Macron est satisfait de son bilan en matière de justice et de sécurité ?
Je ne pense pas qu'il soit satisfait. Je pense... Alors, revenons aux sources du macronisme. Je pense que pour Emmanuel Macron, en 2017, la question régalienne de la sécurité et de la justice n'est pas centrale. Le macronisme, première manière, c'est avant tout un libéralisme économique.
C'est l'économie.
C'est le social-libéralisme. Et donc, l'idée, c'est d'adapter la France à la mondialisation. Alors, ensuite, il percute la crise des Gilets jaunes et puis la pandémie qui lui font mener une politique tout à fait différente. Mais je pense que dans la doctrine macroniste, au départ, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de doctrine, justement, sur ces sujets-là. Il a pris conscience, au fil de son premier quinquennat, de l'importance de ces sujets dans la société française et dans l'opinion. Et donc, il a nommé ces deux ministres dont il pensait Darmanin me couvre à droite, Dupond-Moretti me couvre à gauche. Bon, sauf qu'il y a eu le Stade de France pour Darmanin et que Dupond-Moretti a été mis en examen. Ce qui est un peu embêtant pour un garde des Sceaux tout de même et qui fait que sa crédibilité auprès de, c'est du corps des magistrats, même s'ils sont indépendants, n'est pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je crois qu'il est face à une vraie difficulté qu'il n'a pas eu le courage de remanier au moment où il pouvait le faire.
On va changer de sujet. Allons-nous manquer de gaz et d'électricité l'hiver prochain? C'est une probabilité importante, reconnaît le gouvernement qui prépare d'ailleurs un plan de sobriété énergétique. Les premières pistes ont été annoncées aujourd'hui par la ministre de la Transition énergétique. Les détails avec Michael Dos Santos.
Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Ce dimanche, le gouvernement a annoncé de futurs décrets pour éviter les pertes énergétiques. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
Si on peut préserver l'énergie de manière assez simple, faisons-le.
Nous vendons des produits frais, Donc nous mettons la clim. Si on le ferme mal la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits.
Il y a un peu ce côté amende, infantilisation qui revient assez souvent depuis la période Covid où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
Pour éviter cette surconsommation, estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, ils pourraient sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
Ma police municipale, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès lundi, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros.
Alors Philippe Guibert, quand on met la clim, on ferme la porte. A priori, c'est plutôt du bon sens.
Oui.
Donc on a l'impression quand même que pour l'instant, le gouvernement ne dévoile pas tout son plan. Est-ce qu'il n'est pas davantage en train de préparer l'opinion en leur disant qu'il va y avoir du changement et puis on annonce les choses progressivement?
Vous avez peut-être raison, mais je trouve qu'il prend quand même le sujet par un peu le petit bout de la lorgnette, quand même. Évidemment que c'est de bon sens de ne pas laisser les portes ouvertes quand on a la clim. Mais à vouloir prendre ce type de mesures qu'on n'est pas capable de vraiment faire respecter, parce qu'effectivement, les policiers, qu'ils soient municipaux ou nationaux, ce n'est pas leur première priorité. Une amende de 750 euros qui est quand même élevée pour un petit commerce ou même pour un grand commerce, enfin, c'est quand même des amendes extrêmement fortes. Je ne trouve pas qu'il prend la mesure, par le bon côté, je trouve qu'il manque encore une fois, comme c'est souvent le cas avec cet exécutif, c'est un peu une vision technocratique, on prend les choses de façon parcellaire, un peu bureaucratique, au lieu de donner une vision d'ensemble. Et plutôt que de tenir un discours général pour expliquer ce qu'on va devoir faire d'ici l'hiver prochain, on commence par, je dirais, le plus facile dans le discours, mais sans avoir beaucoup forcément de conséquences pratiques, concrètes, très efficaces. Donc je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est un sujet, on en a au moins pour 6 mois avec ce sujet-là, et je trouve qu'il méritait mieux que de commencer par les portes des magasins, ouverts ou fermés. En plus, c'est pas facile quand il y a de la clientèle. J'imagine, je me mets à la place d'un petit commerçant, c'est peut-être pas évident, de dire à quel moment on laisse les portes ouvertes quand il y a de la clientèle, et puis quand est-ce qu'on les ferme. Enfin, tout ça est pas évident. Je trouve pas que ça soit une super méthode pour commencer avec ce sujet.
Alexandre Devecchio, en lisant l'interview de la ministre, moi j'ai eu le sentiment qu'on avait quand même un gouvernement extrêmement prudent, craintif même quelque part, vis-à-vis de la réaction des Français. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français sont capables de faire de nouveaux efforts ?
Moi, j'ai envie de, pardonnez-moi, mais de répondre à la question pourquoi. C'est toujours le problème. Comment on en est arrivé à cette situation-là? Je vais être un peu long, mais je pense que ça nécessite de la pédagogie. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais en réalité, le problème énergétique avait débuté avant la guerre en Ukraine. La France était autosuffisante en termes d'électricité. Par exemple, elle en exportait jusqu'en 2021. Or, on a fermé Fessenheim et aujourd'hui, on se trouve obligé d'acheter de l'électricité aux Allemands. Donc il y a des choix stratégiques qui ont été mauvais, notamment pour céder à une forme de démagogie écologique. On a construit des éoliennes qui ne sont pas en capacité réellement de fournir de l'électricité. On se trouve aujourd'hui dans cet embarras-là. Donc ça, c'est... Et l'Allemagne a beaucoup encouragé à cela, fermant elle-même son parc nucléaire. Et aujourd'hui, va se retrouver extrêmement dépendante du gaz russe. Et il se trouve que si on va imposer des rationnements aux Français, c'est pour partager une partie de notre gaz, notamment avec les Allemands. Donc là encore, Philippe Guibert parlait de vision globale. Moi, j'aimerais des ministres qui expliquent clairement la situation aux Français, qui expliquent peut-être que c'est nécessaire effectivement de partager notre gaz avec les Allemands, parce que personne n'a intérêt à voir l'Allemagne s'effondrer, mais que peut-être on va leur demander des contreparties, parce qu'ils sont en grande partie responsables de cette situation-là. Ça, ce serait digne d'un chef de l'État avec une vision, de ministres avec des visions. Là, on en reste à des mesurettes technocratiques, punitives, et effectivement, qui ne sont peut-être qu'un début, parce que je crois qu'effectivement, il risque d'y avoir des pénuries de gaz, d'électricité et une facture qui va exploser.
Philippe Guibert.
C'est-à-dire qu'il y a deux sujets, en fait, sur ce sujet sobriété énergétique. Il y a le sujet de court terme, qui est effectivement lié à la question de l'approvisionnement en gaz de l'Europe et de la France et de l'Allemagne, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a le sujet de moyen terme, qui est celui de la transition énergétique, parce qu'il y a un moment où il va falloir quand même, dans tous les experts, dans tous les scénarios qu'ils ont construits, ils disent il faut relancer le nucléaire, il faut qu'on consomme moins, et il faudra quand même du renouvelable parce qu'on ne fera pas tout avec le nucléaire. Donc, la crise qui est liée effectivement à la situation ukrainienne nous oblige à mettre en place, à mon avis, sur 10 ans, une perspective où on ne va pas consommer exactement pareil l'énergie. Mais on va le faire sur 10 ans, on ne va pas le faire en 6 mois. Et donc je trouve que ça manque, et là je trouve que c'est le rôle du président de la République, au minimum à minima du Premier ministre, de la Première ministre, de nous donner un peu cette vision. On est dans une situation difficile parce qu'effectivement, n'ayons aucun doute là-dessus, Vladimir Poutine usera de l'arme de l'énergie. Il n'y a aucun doute à voir là-dessus. Il fera son maximum pour presser tant qu'on aidera l'Ukraine militairement. Mais au-delà de cette guerre ukrainienne, il nous faut changer progressivement de façon de consommer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer, mais ça veut dire que c'est un gros sujet pour les 10 années qui viennent.
Et pour compléter ce que vous dites, on peut même dire que l'objectif du gouvernement, c'est de réduire de 40% la consommation d'électricité d'ici 2050.
Bon, alors ça, c'est
dans 30 ans.
Donc,
voilà. Donc le gouvernement voit quand même très très loin, 40% en moins en 30 ans.
Déjà, à 5 ans, ça sera intéressant d'y voir clair un petit peu sur la perspective, ce qu'on doit faire.
Allez, on marque une très courte pause, vous restez avec nous, et puis on se retrouve dans quelques minutes donc, pour la deuxième partie de Ça se dispute. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, la deuxième partie de Ça se dispute dans un très court instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Mathieu Devez.
Plus que 2 ans avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, demain, Emmanuel Macron réunira plusieurs ministres et services de l'État concernés. Objectif de cette réunion de chantier, faire le point sur le défi de l'événement, notamment en matière de sécurité. En Italie, plus d'un millier de migrants débarquent en quelques heures. Parmi eux, plus de 600 personnes qui tentent de traverser la Méditerranée à bord d'un bateau de pêche ont été secourues. Et puis un Tour de France qui se termine et un autre qui commence. Ce dimanche a vu le départ de la Grande Boucle, version féminine, et c'est la néerlandaise Lorena Wiebes qui remporte la première étape.
Suite de nos débats à présent, alors que la France compte 7,3% de chômeurs, soit 3 200 000 personnes sans aucune activité, eh bien, certains secteurs comme la restauration peinent pourtant à recruter. Certains jeunes notamment semblent avoir de nouvelles aspirations et le travail n'est plus nécessairement une priorité. Fabrice Elsner, Thibault Marcheteau.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'emploi idéal ?
Dans le métier, je cherche quelque chose qui me donne envie de me lever le matin.
C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut.
Des revenus, du temps pour soi et une grande autonomie. Voilà les aspirations des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Les secteurs aux horaires décalés et avec les bas salaires attirent de moins en moins car ils ne correspondent plus à la demande des jeunes.
Nous, on est obligé de travailler quand les autres s'amusent. Donc on est là, c'est une réalité. Donc les jeunes qui servent des gens ou qui pensent que leurs copains sont en situation de loisir, c'est que c'est le décalé de la profession.
La restauration souffre d'une pénurie de main-d'œuvre et les raisons sont bien connues. Désintérêt pour le secteur, réticence face aux horaires découpés et aux week-ends de travailler. Selon ce gérant, c'est l'épidémie de Covid qui a changé le rapport au travail.
Les gens ont pris des habitudes totalement différentes. Et ils se sont habitués à être chez eux le soir, ils sont habitués également à profiter de leur week-end, à voir leur famille, à avoir une vie sociale qui soit différente. Et donc pour eux, et maintenant la restauration, c'est quelque chose qu'ils n'aiment plus. Ils ne veulent plus travailler le soir, ils ne veulent plus travailler le week-end.
Pour s'adapter aux nouvelles demandes du marché, certains restaurateurs pourraient faire le choix de fermer dans la semaine ou alors de revoir les salaires à la hausse et les horaires à la baisse.
Alexandre Devecchio, est-ce que le constat qui est dressé dans ce sujet-là est un constat inquiétant selon vous ?
C'est un constat auquel il faut réfléchir en tous les cas. Et sur la question de la grande démission du travail, je pense qu'il y a des cas un peu différents. Il y a le cas effectivement de la restauration, mais on commence à voir poindre à la fin de votre sujet une partie de la solution. Faire moins d'horaires, avoir des salaires plus élevés. C'est vrai qu'il y a des secteurs, je pense à la restauration, au bâtiment par exemple, qui fonctionnent plutôt bien et où il y aurait pu avoir un effort fait sur les salaires. Ce sont parfois des secteurs en plus qui embauchent des gens en situation irrégulière. Donc je pense que là, voilà. La faute est un peu partagée. Ensuite, c'est vrai qu'on a peut-être un système social en France qui est protecteur et c'est tant mieux, mais qui est plus seulement un système qui permet d'assurer les gens en cas de coup dur, qui est un système dans lequel certains s'installent. Et là, je dois reconnaître qu'il y a sans doute une dérive. Enfin, je pense qu'il y a aussi un problème. Alain Supiot, on a fait une belle interview que je vous invite à lire dans le Figaro d'Alain Supiot, qui parle de dépossession dans le monde du travail, de l'entreprise. Et je pense qu'il a en partie raison, et ça s'est aggravé avec le Covid. J'appartiens quand même à une génération où on nous a expliqué que le maître mot devait être flexibilité. Ça correspondait généralement à précarité. On signait un CDD, puis un autre. On arrivait dans une entreprise, fallait être en open space. On disait que c'était plus convivial. Aujourd'hui, on est même dans le flex office, c'est-à-dire que plus personne n'a de bureau. Donc, il y a eu une espèce de dérégulation aussi du travail, d'un espèce de capitaliste qui n'était plus finalement familial, qui n'était plus enraciné, avec plus de relations entre le salarié et l'employeur. Et je pense que il y a peut-être des salariés qui ne sont pas motivés, qui profitent du système, et il y a aussi les employeurs qui voulaient absolument flexibiliser le travail, sont aussi responsables de cette situation. Et ceux qui ont expliqué que le télétravail c'était la panacée au moment du confinement, moi je crois que ça ne n'aide pas effectivement à créer un lien, à faire que les gens se sentent attachés à leur entreprise, et surtout à trouver du sens dans le travail. Parce que quand on fait un travail qui a du sens, eh bien on le fait beaucoup plus facilement et on n'a pas envie de démissionner.
Oui, je prolonge ce que vous venez de dire. Hein. On est entré dans un système économique capitaliste qui a privilégié la rentabilité à court terme, et où donc les salariés, à quelque niveau qu'ils soient, ont été complètement branchés sur cette exigence qui fait perdre du sens, parce que c'est vrai pour votre génération, mais ça a commencé avec la mienne, si je peux me permettre. Et donc la perte de sens et l'aspiration à une autre façon de travailler se répand dans la société. La pandémie a été un révélateur d'une situation qui en fait était éprouvée avant, mais qui est devenue moins supportable encore depuis la pandémie. Après, effectivement, il y a des problèmes de secteur. Et je trouve que dans la restauration et le bâtiment, on est vraiment très gentil hein, avec ces secteurs. Alors on est tous contents d'aller au restaurant et puis de voir des bâtiments se construire, mais ce sont quand même des secteurs qui ont beaucoup tiré sur la corde et qui ont parfois franchement abusé, il faut quand même le dire, parce que demander aux gens d'avoir des horaires difficiles, c'est un métier difficile physiquement, la restauration, le service de manière générale dans la restauration, dans l'hôtellerie, pour des salaires un peu au lance-pierre avec des traitements des salariés qui n'est pas toujours d'une grande amabilité, on a plein d'exemples tous, fait qu'au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Donc c'est un secteur qui a bénéficié largement des aides de l'État pendant la pandémie, c'était justifié d'ailleurs, je ne dis pas le contraire. Il y a un moment donné où la question des salaires va aussi se poser, c'est une autre dimension. Et ça rejoint le sujet précédent, parce que ça rejoint le sujet du pouvoir d'achat avec l'inflation qui repart, et la question énergétique, mais il y a un moment donné où il va falloir quand même que les entreprises fassent leur part de l'effort, et qu'on ne peut pas dire tout le monde répète le travail est la valeur centrale de la société. Oui, à condition d'avoir des salaires qui conviennent et qui permettent aux gens de vivre.
Il y a la question des salaires qui évidemment est une question essentielle, et on le voit de plus en plus ces dernières semaines avec l'inflation évidemment. Mais ce qui est dit dans ce reportage, c'est aussi que depuis la crise sanitaire, les Français veulent en quelque sorte davantage profiter de la vie. Est-ce que ça signifie que le rapport que nous avons au travail a été modifié de manière définitive?
Non, je crois pas, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que si ils s'accomplissaient davantage dans leur travail, ils pourraient faire plus de concessions sur leur vie privée. Je pense que c'est un équilibre à trouver, mais je pense qu'il y avait aussi une souffrance au travail, et que peut-être que la crise du Covid a fait que des gens ont pris conscience de cette souffrance et se sont dit à quoi bon, surtout avec un système qui est, il est vrai, généreux et peut-être parfois contre-productif. Donc je pense qu'il faut tout simplement repenser la question du travail, en refaire une valeur effectivement centrale, parce que je pense que c'est important, mais ça passe par des salaires
qui doivent correspondre à l'engagement de salariés. Ça passe peut-être avec une remise en cause profonde de l'ubérisation du travail et avec un retour du sens au travail dans l'entreprise. Donc oui, je pense que les choses ne sont jamais figées. Vous me demandez si c'est irrémédiablement changé. Moi, il se trouve que je crois à la politique et je crois que si on a une vision politique, on peut changer la société et que ce qui se passe est plutôt inquiétant, mais qu'on peut encore le modifier dans le bon sens.
Il n'y a pas que l'ubérisation, parce que et puis il n'y a pas que la pandémie. Enfin, la pandémie a été plutôt révélateur. Souvenez-vous du grand succès du bouquin sur les bullshit jobs. C'est-à-dire ces jobs qui ne sont pas ubérisés, hein, qui sont là, on ne parle pas de la restauration. Ouais. On parle des jobs dans le secteur du service, de haut niveau, où les gens avaient le sentiment de faire des jobs qui n'avaient plus de sens et qui ne servaient pas à grand-chose. Donc cette révolte contre un certain type de management, un certain type de fonctionnement des entreprises, elle préexistait à la pandémie. Après, il y a des phénomènes de... Effectivement, la pandémie a joué un grand rôle, mais il y a aussi un autre phénomène qui est celui d'une crise généralisée de menaces qui s'ajoutent les unes aux autres. Il faut quand même prendre conscience qu'on nous a dit qu'il fallait s'habituer à vivre avec le terrorisme, qu'il fallait s'habituer à vivre avec un virus, que maintenant, il va falloir s'habituer à vivre avec moins d'énergie. Enfin, ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut s'habituer. Et donc, la recherche de sens dont parle Alexandre et le sentiment de dépossession dont parle Alain Soupiot me paraissent se diffuser de plus en plus dans la société. C'est le rôle du politique, mais attention, on est quand même dans un capitalisme mondialisé, globalisé, financiarisé. Et donc le politique, là-dessus, ne peut pas tout. Je redis, il y a une responsabilité des... Enfin, c'est une phrase qui a porté malheur à un ancien premier ministre socialiste, mais néanmoins, il n'était pas totalement fausse. Il y a un rôle des chefs d'entreprise, des directions d'entreprise dans tout ça.
L'État ne peut pas tout.
Non, l'État ne peut pas tout, parce que c'est pas l'État. Enfin, regardez dans le débat actuel sur le pouvoir d'achat, puisqu'il y a un accord qui a été trouvé à l'Assemblée nationale. On dépense 20 milliards d'euros, après en avoir dépensé 27. Tant mieux, il fallait sans doute le faire. Mais on ne peut pas continuer, on ne peut pas demander à l'État de résoudre le problème du pouvoir d'achat. Il y a une responsabilité des entreprises sur les salaires, et à un moment donné, il faudra bien l'assumer.
Mais l'État peut tout de même orienter, avoir une stratégie, négocier éventuellement branche par branche. Et surtout, il n'est pas obligé de se soumettre à ce capitalisme mondialisé et financiarisé que vous avez décrit. Or, Alexandre, il a eu tendance à se soumettre de Lionel Jospin à Emmanuel Macron, qui nous avait expliqué tout de même, durant sa première campagne, qu'Uber était la panacée et que la France devait désormais être une start-up nation. Je ne suis pas sûr que c'était forcément la bonne direction pour donner du sens.
Non, c'est pas le projet qui mobilise à l'évidence la société. C'est pas ce projet-là. Néanmoins, sans vouloir, parce que de Lionel Jospin à Emmanuel Macron, Lionel Jospin, il avait fait les 35 heures, qui n'était pas vraiment une façon de se coucher devant le capitalisme mondialisé. Et ça n'a pas forcément très bien marché. Je veux dire, ayant participé à ma modeste mesure à quelques expériences de gauche, de gouvernement dans ce pays, je peux constater que quand vous ne voulez pas vous soumettre à la finance, comme disait François Hollande, on a parfois de mauvaises surprises et des réveils un peu difficiles. Et donc j'étais un peu vacciné contre ces grands mots, contre le capitalisme. Il est puissant, le capitalisme. L'Union européenne ne nous en protège pas vraiment. Et donc c'est un travail à bien réfléchir avant de se lancer dans
la... Je ne suis pas anticapitaliste, mais je pense qu'il peut être national. Et je pense, moi, que les 35 heures ont, pour le coup, été aussi une erreur. J'ai dit ce que je pensais sur parfois des gens qui abusaient sur les horaires, sur les salaires. Je pense que les 35 heures, voilà, on en paye les conséquences dans beaucoup de secteurs, y compris l'hôpital. Donc, je pense qu'il faut travailler plus et travailler mieux.
Voilà. Allez, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur cette quarantaine de députés de gauche, dont Fabien Roussel ou encore Adrien Quatennens, qui ont signé vendredi dernier une proposition de résolution qui condamne, je cite, le régime d'apartheid institutionnalisé mis en place, selon eux, par Israël contre les Palestiniens. Le texte accuse Israël d'avoir, je cite, mis en place un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique par un seul groupe racial. Est-ce là de l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme, comme le dit le CRIF, Alexandre Devecchio ?
C'est plusieurs choses à la fois, je crois. C'est d'abord un réflexe clientéliste inquiétant. On sait que la NUPES a fait ses meilleurs scores dans les banlieues, parfois dans les banlieues islamisées, qu'il y a même parfois eu des appels au vote de certains imams. Et on sait que la question israélo-palestinienne dans les banlieues, où il y a clairement un antisémitisme dans certaines familles, dans certaines banlieues, est une question importante. Donc c'est une manière pour la NUPES de surfer sur ce ressentiment dans les banlieues françaises à l'égard d'Israël. Et ça me paraît propre à fracturer encore plus la société française. Et d'ailleurs, c'est assez... Moi, je m'étonne que la gauche, leur première priorité au moment où on parle du pouvoir d'achat, c'est de se pencher sur le conflit israélo-palestinien qui est quand même loin de nous. Donc je crois que ça va importer des conflits qui ne sont pas les nôtres. Donc le premier motif, il est bassement électoraliste et clientéliste, mais il est vrai qu'il y a une tradition antisémite à gauche. On parle toujours de la tradition antisémite de l'extrême droite. Il y a aussi une tradition antisémite de l'extrême gauche par anticapitalisme. Et il se peut que chez certains, chez LFI, il y a aussi cette tradition anticapitaliste. Et puis, on a eu certains propos, parfois... excusez-moi, parfois étonnant.
Il y a une mouche sur le plateau. Parfois,
voilà, il y a une mouche.
On raconte tout aux téléspectateurs.
Sur le plateau, mais voilà, il y a eu des dérapages, que ce soit des compromissions avec des islamistes radicaux, que ce soit des propos de Mélenchon sur le peuple déicide, et j'en oublie. Mélenchon sur l'affaire Mohamed Merah qui expliquait quasiment que c'était un complot de l'État pour diviser la société avant les élections présidentielles. Donc ça commence tout de même à faire beaucoup pour LFI.
Je trouve qu'on ne peut pas dire que Israël est un... On ne peut pas faire une comparaison entre Israël et l'Afrique du Sud de l'apartheid. On peut avoir des critiques face à la politique israélienne depuis 20 ans, depuis 30 ans. Encore qu'il serait bon d'expliquer quelle est la bonne solution dans ce conflit inexpliable. Mais on ne peut pas se permettre de faire des comparaisons de cette nature. Je voudrais juste rappeler qu'en Israël, il y a environ une bonne vingtaine de pourcents de la population qui est arabe, que cette population, elle a tous les droits, notamment les droits de citoyens, de vote aux élections israéliennes, qu'il y a des partis arabes, il y a même un parti islamiste qui est représenté à la Knesset. Donc on peut faire des critiques contre la politique israélienne. Mais derrière cette comparaison entre Israël et l'apartheid, il y a comme une volonté de délégitimer cet État d'Israël. En lisant le texte, on constate que la critique d'Israël est presque originelle et originaire. Et donc, il y a dans ce texte quelque chose qui met extrêmement mal à l'aise, qui est non pas une critique de la politique israélienne, mais une critique de la légitimité de l'État d'Israël. Et c'est ça qui est problématique. Après, on peut débattre sur un sujet. Il y a beaucoup de sujets compliqués, mais celui-là, il est bien compliqué. Donc, je ne me lancerai pas dans la discussion ce soir. Mais voilà ce qui est gênant. Alors, pour le Parti communiste... C'est ce qui explique la signature de Fabien Roussel. C'est un vieux sujet presque identitaire, la question israélo-palestinienne. Pour la gauche des années 70 et 80, cette question-là était centrale. Mais depuis une vingtaine d'années, 25, 30 ans, peut-être même plus, il y a eu comme une évolution dans la gauche radicale vers des positions de plus en plus pro-palestiniennes et de plus en plus anti-israéliennes, pendant que le sujet lui-même se transformait profondément via notamment l'islamisme dans les territoires occupés. Donc tout ça est très complexe et c'est pour le moins très, très, très maladroit, pour pas dire plus, d'avoir commencé effectivement par déposer cette résolution dans ces termes en début de législature.
Parce que c'est pas de la maladresse, c'est une stratégie.
Ce qu'on peut préciser tout de même, c'est que ce dont nous débattons en ce moment, ce dont il est question, cette résolution divise la gauche. Elle a été condamnée par un tas de responsables socialistes. Anne Hidalgo, par exemple, a condamné cette proposition de résolution. Est-ce qu'elle contribue, selon vous, à cette proposition de résolution, en ces termes-là, à attiser quelque part ce climat de haine en France, dans un climat d'insécurité quand même pour un certain nombre de nos compatriotes juifs?
Moi, c'est ce que je vous disais. Je parlais de l'affaire Merah, que Jean-Luc Mélenchon a lourdement relativisé, mais il y avait la première affaire Halimi dans les banlieues, tuée parce que juif et parce qu'on pensait que les juifs avaient de l'argent alors que c'était quelqu'un d'une banlieue pauvre. L'affaire Sarah Halimi, défenestrée au cri d'Allah Akbar. Donc on sait que dans les banlieues, il y a ce qu'on appelle un nouvel antisémitisme qui est disons les choses clairement, un antisémitisme lié à l'islam et à l'islamisme. Donc dans ce contexte-là, surfer sur cette question-là, c'est particulièrement cynique et dangereux. On sait qu'il y a de plus en plus de juifs qui quittent le pays, qui prennent la nationalité israélienne parce qu'ils ont davantage de peur de vivre en France qu'en Israël. Il n'y a plus d'enfants juifs quasiment dans les écoles du 93. Donc c'est irresponsable de mener cette politique-là, je crois, aujourd'hui.
En tout cas, on ne peut pas ignorer qu'il y a des liens entre l'antisionisme, c'est-à-dire la remise en cause du projet sionisme et donc de l'État d'Israël, et puis l'antisémitisme. Il y a des cas où on peut trouver des gens qui sont antisionistes sans être antisémites. Oui, il ne s'agit pas de faire une équivalence. Néanmoins, il y a des liens assez forts, et il y a des liens notamment assez forts dans la culture arabo-musulmane depuis de nombreuses années. Et les signataires de ce texte ne peuvent pas totalement l'ignorer. Donc on ne veut pas leur faire des procès enflammés, mais je trouve que pour le moins, il y a un manque de réflexion qui est frappant. Alors peut-être sur fond d'électoralisme, mais je ne suis même pas convaincu que pour le PC, par exemple, ça soit du pur électoralisme, parce que c'est une vieille tradition au PC. Donc je crois qu'il y a un ancrage idéologique assez profond, assez ancien, qui fait de cette question une question identitaire pour une partie de la gauche, mais avec une réflexion qui me paraît extrêmement vieillie, vu les termes du problème là-bas, et comme vous l'avez indiqué, ici, dans les banlieues. On a quand même vu des gens défiler au cri de mort aux juifs en 2014 dans les rues de Paris, suite au conflit entre Israël et Gaza. Je veux dire, si on ne prend pas ça à la légère, et Alexandre a rappelé toute une série d'actes et d'assassinats antisémites. Donc je trouve que là, ils sont dans une totale irresponsabilité de formuler ainsi une réflexion sur la question israélo-palestinienne.
Oui, ça pose là, vous me posiez la question de la gauche, qui est quand même intéressant. C'est peut-être le deux poids deux mesures entre l'extrême gauche et le Rassemblement national. Aujourd'hui, s'il y a un parti qui est pour le moins ambigu avec la question de l'antisémitisme, c'est l'extrême gauche. Et cette alliance entre la gauche traditionnelle et l'extrême gauche dès le premier tour, pour des gens qui ont fait des leçons de morale à la droite pendant des années, c'est quand même extrêmement paradoxal. Donc je trouve que ça remet en cause aussi tout un discours antifasciste sur le front républicain dont on a soupé pendant des années et qui, je crois, ne correspond plus aux enjeux et aux menaces actuelles.
Alors là, une petite nuance, parce que si on commence à parler d'extrême gauche à propos de LFI, alors qu'on disait...
De la gauche, mais... Dans ce cas-là, je veux bien ne pas parler d'extrême gauche, mais il ne faut pas parler d'extrême droite non plus.
D'accord, mais comme on a beaucoup dit qu'il ne fallait pas...
Au sujet du Rassemblement
national. Parce que c'est une droite identitaire, populiste, parfois autoritaire. Il me semble que LFI n'est pas l'extrême gauche. L'extrémisme, ça envoie une certaine violence politique et pas simplement une violence verbale.
On peut tomber d'accord là-dessus.
Dans l'Assemblée nationale, je ne crois pas que LFI ait envie de renverser la République. Donc, je crois que parler d'extrême gauche violentes comme peuvent l'être un certain nombre de mouvements, les Antifa ou les Black Blocs dans des registres différents, c'est pas la même chose. Maintenant, LFI est en effet sur une ligne de gauche radicale qui rompt avec toute une tradition de la gauche de gouvernement, de la gauche républicaine depuis 30-40 ans. Il y a toute une série de reptiles. Sur la question israélo-palestinienne, ce n'était pas le discours du PS de Mitterrand, par exemple, le discours qu'il tient. Ce n'est pas du tout ce discours-là. Mitterrand, quand il a été élu, un de ses premiers voyages a été d'aller faire un discours à la Knesset en Israël. Donc, vous voyez, et il était pourtant déjà sur un discours, les deux États ont droit à l'existence et à la sécurité, Israël à la Palestine. Mais ce n'était pas la tradition du PS. On pourrait prendre toute une série d'exemples dans le discours de LFI et de certains de ses alliés, où on est en rupture par rapport à ce qu'a été la gauche depuis Mitterrand. Ce qui fait que pour toute une série de personnes, dont je fais modestement partie, c'est un peu compliqué de se retrouver par rapport à ce qu'on a pensé, ce qu'on a cru et les opinions qu'on a eues pendant 30 ans, se retrouver dans une gauche qui effectivement a rompu avec un héritage républicain et de gouvernement. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, je rappelle toujours qu'avoir fait 25% aux élections législatives, ce n'est pas un exploit électoral. En se mettre à quatre partis pour obtenir 25% et obtenir 150 députés, ça n'a rien d'un exploit. Donc l'ANUPS n'est peut-être pas l'avenir de la gauche, il y aura des recompositions. Et comme vous l'indiquiez, il y a quand même un certain nombre d'élus de gauche qui n'ont pas suivi cette résolution. Et je pense que des nouvelles failles vont se créer au sein de cette alliance. Et je pense qu'à la rentrée cet hiver, on aura des surprises sur l'avenir de cette alliance.
Le mot de la fin, rapidement, Alexandre Devecchio.
Non, on est d'accord là-dessus. Juste sur extrême-gauche, extrême-droite, moi, j'aime pas de toute manière quand on qualifie d'extrême et quand on caricature. Mais il est vrai qu'on a tellement caricaturé dans un camp qu'il faudrait peut-être rééquilibrer, si j'ose dire, la balance. Vous dites que Jean-Luc Mélenchon ne prône pas la violence. Je le crois, mais il a quand même des propos parfois limites. Il appelle à l'insurrection. Et certains se demandent même si...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.